Bien bonjour à toutes et tous et bienvenue sur l'antenne de Principe Actif. Si vous nous suivez depuis deux jours, vous savez que nous sommes présents au Forum des Associations. Ce fameux forum qui réunit bon nombre d'associations du territoire, ô combien essentiel à l'épanouissement, au divertissement, à l'éveil de soi peut-être, en tout cas ils y contribuent. Plus de 100 associations sont présentes dans le handicap, dans le sport, dans le culturel, dans le social, dans l'innovation, dans plein de sujets et plein de thèmes différents. Et nous allons nous efforcer à vous en présenter certaines autour de sujets bien précis et de thématiques. Ce jour, vous entendrez parler sport, vous entendrez parler handicap, vous entendrez parler bénévolat, vous entendrez parler culture, qui sont quand même des sujets qui nous touchent toutes et tous.
Dans le sud de l'heure, 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net. Principactif, le lycée culture.
C'est nous et c'est bien nous en compagnie de trois invités de qualité que j'ai été chercher hier. J'ai scouté, trois personnes qui me semblaient très pertinentes et intéressantes pour ce sujet ce matin autour du sport et de la santé et de la construction de soi. Bonjour à vous, Annie. Annie, vous êtes, si je ne m'abuse, présidente du studio Dance Attitude.
Oui, tout à fait. Studio Dance Attitude et Évreux, donc rue Isambard, à côté du cinéma. Donc, studio de danse, mais également fitness et bien d'autres choses, puisqu'on fait également de la pole dance. On accueille un public de 4 à 99 ans, donc pluridisciplinaire.
Et on va prendre le temps de présenter votre studio de danse. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là, Annie. En compagnie de Mathias. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Mathias, vous êtes dans une activité, une pratique un petit peu atypique et qui n'est pas que sur un énoncé parce qu'il y a un champ de discipline aussi assez conséquent.
Exactement. Alors, je fais partie du CAP Vévreux, le club alpin français. Et donc, ça concerne toutes les activités liées à la montagne. Donc, même s'il y a très peu de montagne
dans l'heure, oui.
On se permet quand même d'avoir des activités assez diverses et variées. Ça peut être donc de l'alpinisme, de l'escalade. Donc, en sport artificiel ou naturel, et également des cascades de glace, des randonnées de rando, ou également des randonnées en été dans les montagnes avec parfois un peu d'alpinisme. Voilà.
Merci. Un champ très vaste d'activités au sein de votre association. Et j'ai le grand plaisir de recevoir un sensei, c'est le terme, je crois, Stéphane. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Un sensei dans la pratique du kendo.
C'est ça.
Voilà. Le club, c'est... j'ai le nom, là. Il est où il est passé? Kendo Club d'Évreux? Non, Club de Kendo Évreux. Je l'ai mis dans le mauvais ordre.
Voilà, donc je suis l'enseignant principal du Club de Kendo d'Évreux. Nous sommes dépendants de l'Amicale de Saint-Michel. Et actuellement, les cours ont lieu 14 rue Jean Bar à Évreux.
Voilà, on va prendre le temps parce qu'il me semblait que tous les trois, vous aviez des ponts communs. Justement sur la pratique d'un sport et d'une activité qui, au-delà de l'apport physique, étaient très certainement des activités qui permettaient aussi de mieux se sentir. Et je suis intimement convaincu que c'est la chose. Annie, je vais commencer par vous. On l'a entendu, le studio Dance Attitude, c'est un club, une association qui est en plein cœur hébroïcien. Vous en êtes la présidente. Vous êtes aussi adhérente, vous pratiquez, vous aussi, Annie?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, je suis adhérente. Je pratique la danse auprès de Vanessa Morel depuis...
Qui est l'enseignante?
Alors, Vanessa Morel est enseignante, mais elle est aussi directrice artistique. C'est d'elle d'où naissent toutes les idées, même les plus farfelues. Elle est vraiment géniale. En fait, on a plein d'idées, je vais vous en reparler après. Mais voilà, moi, je suis adhérente et je danse depuis près de 8 ans. Donc, on a commencé à la LSM. Aujourd'hui, Vanessa a monté son école de danse, le studio Dance Attitude, qui marche très, très bien et qui présente, en fait, plusieurs disciplines dont on parlera tout à l'heure.
Alors, quand je parle d'apport... On peut imaginer, de prime abord, que parfois on arrive dans une école de danse, on a un physique où on n'est pas toujours à l'aise avec, on a quelques formes, on est très longiligne, on est tout petit, on n'a pas la sensation d'avoir le rythme en soi. Est-ce que justement de franchir la porte d'une école de danse, c'est pas déjà aller vers un mieux-être?
Tout à fait. Déjà, il faut se dire que danser, c'est l'essence même de l'homme. Un enfant, il sait même pas encore marcher, il se tient debout, vous mettez de la musique, il se dandine, il danse, il est content, ça apporte de la joie. Une école de danse, c'est la même chose. C'est vrai qu'il faut franchir le pas, mais en fait, on est avant tout une famille. Bon, l'avantage aussi qu'on a au sud de l'Institut, c'est qu'il n'y a pas de compétition, il y a plusieurs niveaux. Et l'avantage aussi de faire des séances d'essai, ça permet de savoir où est-ce qu'on se sent le mieux. Et qu'on soit petit, grand, gros, maigre, on s'en fiche. En fait, l'avantage, c'est de se sentir bien avec tout le monde, la musique, bouger, danser et participer en fait, à une communauté. En fait, on est réellement au sein d'une communauté qui nous apporte du bien-être et qui nous permet d'aller au-delà de ses compétences. Parce qu'on démarre, on ne connaît rien ou pas grand-chose en fonction du niveau. En milieu d'année, on est déjà capable de faire un mini-spectacle pour faire voir ce qu'on a fait. Et en fin d'année, alors il y en a qui disent au démarrage, moi, pas de spectacle.
Ouais.
Mais je peux vous garantir, vous mettez un pied sur scène et là, c'est le dépassement de soi. Hein, c'est l'adrénaline, on est à fond dedans et voilà, c'est ça. C'est une équipe en fait. Et on s'en fiche de savoir si on sait danser ou pas à la base. On est là pour s'amuser, prendre du plaisir.
Danser, ça fait tant de bien. Je suis totalement converti à la chose. Et ce n'est pas là-dessus que vous aurez besoin grandement de me motiver. Mathias, sur la pratique de l'escalade, alors on l'a dit, une association des pratiques de sport de la montagne, c'est vrai que c'est dans l'énoncé à Évreux, ça peut paraître atypique, mais en fait, l'escalade est une discipline qui se pratique toute l'année potentiellement parce qu'il y a des murs dans des salles en fait.
Exactement, alors je rejoins ma collègue en disant qu'en effet, qu'on ait le physique ou pas, déjà juste de faire la démarche, de dire tiens, je vais tester. Ça permet déjà de s'accepter en tant que soi, et peu importe le physique, on a vraiment tous les...
Vous aussi, vous avez des physiques
Ah oui, vraiment, on a même des vraiment atypiques, ouais. Et d'ailleurs, peu importe, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi juste la souplesse et puis l'engagement de soi. Hein. Si en fait, on n'a aucune appréhension, automatiquement, on va pouvoir permettre d'avoir des grimpes qui soient plus sympathiques. Et puis, ça permet en fait, même si ça paraît individuel, on ne peut pas, mis à part quand on a un niveau très, très important, qui n'est pas notre cas en moyenne, d'avoir une collaboration, parce qu'on est toujours encordé avec un collègue.
Quelqu'un qui est en soutien.
En fait, ça permet en fait, d'avoir vraiment des relations humaines non négligeables. Et je me permets aussi de soutenir qu'on a déjà donc des catégories donc débutants totales, que ce soit les enfants ou les ados. Et on a eu l'expérience d'avoir aussi intégré un adolescent qui était donc avec des déficiences cognitives. Et donc, ça demandait bien sûr un encadrement particulier de la part des encadrants. Mais lorsqu'on voyait son épanouissement, c'était totalement, enfin voilà, d'être intégré avec les autres adolescents, c'était quand même totalement nouveau pour lui, quoi. Voilà.
Puis ça doit être très agréable de voir justement l'apport que ça a concrètement pour un jeune, mais comme pour un moins jeune. Voilà.
Tout à fait, peu importe, hein, juste nous de permettre de contribuer à ce bien-être, c'est quand même une satisfaction personnelle.
Vous pratiquez où avec le club? Alors, plus précisément, parce qu'on sait que par exemple à Guichainville, en dehors d'Évreux, il y a plusieurs murs, ou en Gerville, il y a des murs d'escalade, il y en a dans beaucoup de collèges, de gymnases, mais vous avez peut-être votre mur de référence d'escalade à Évreux?
Nous, on a officiellement le siège est donc au lycée Canagina Canada. Voilà. Donc là, tous les mardis pour les adultes qui souhaitent venir. Ensuite, on a des créneaux pour les adolescents qui, eux, sont le lundi au gymnase Polizère également. Et depuis trois ans désormais maintenant, on a aussi accès au gymnase donc à Augustin Hébert. Donc ça fait trois murs différents que l'on peut aménager de temps à autre avec des voies nouvelles de façon annuelle. Et on effectue aussi des sorties dans des falaises naturelles à proximité.
On dit beaucoup, il y en a.
Voilà, quelques-unes, ouais, tout à fait.
Merci Mathias pour cet éventail de possibilités. On va développer derrière forcément sur peut-être les sorties à la montagne qu'on peut organiser avec votre club et votre association. Stéphane Rey du club de Kendo d'Évreux.
Oui.
On l'a dit, vous dépendez de la LSM, le truc rigolo et clin d'œil, c'est qu'en fait, on pratique à Nétreville. Au-delà de ça, le kendo, moi, je suis complètement vierge d'informations et de connaissances, mais voilà, j'ai cette idée d'une pratique qui, au contraire de d'autres pratiques d'art martial, peut-être bien, on est davantage dans la concentration, la réflexion, la gestion de son mouvement et la mesure de son geste. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est ça. Donc en fait, le kendo, c'est un art martial japonais, très développé au Japon, plus ailleurs forcément. On débute le kendo à partir de 5 ans au Japon. Bon, en France, on débute un peu plus tard, en règle générale. Par exemple, nous, au club, les premiers élèves, on les a à partir de 12-13 ans. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de capacité particulière. Il faut être en bonne santé. Que dire là-dessus
Bah, vous aviez anticipé le masque, déjà.
Pardon?
Vous aviez anticipé le masque.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, oui, en fait...
Je me permettais.
Pour expliquer en gros ce qu'est le kendo, bah c'est en fait un duel. On est constamment avec un partenaire. On est casqué, on a une armure souple hein, qui a été adaptée. Et on.
Et ce porte sabre s'appelle comment ?
Pardon. Le shinai.
Shinai, merci.
Voilà, on porte des frappes réelles, sur des parties bien précises de l'armure. Donc.
C'est toujours au-dessus de la ceinture.
Toujours. On ne frappe pas aux jambes, on ne frappe pas sur les bras, on frappe au niveau de la tête, on frappe au niveau des poignets, au niveau du corps, et on peut faire un pic au niveau de la gorge. Alors tout ça, c'est bien protégé, donc il n'y a pas de problème particulier. Les enfants peuvent pratiquer également. Les premières années, bon, on n'est pas en armure, on apprend à manier l'arme, on apprend les déplacements. Puis on apprend la discipline dans un dojo aussi.
C'est vrai que, vous l'avez dit, on est toujours en dualité.
C'est ça.
Ça me paraît très important parce que pour avoir pratiqué il y a de nombreuses années le judo où il y avait des séquences à répéter, on est individuel, on est tout seul, on répète des gammes, des gestuels face à son professeur.
C'est pareil, kendo aussi.
Bah, sûrement, mais du coup, effectivement, il y a des duels lors du combat. Mais là, j'avais l'impression que même on apprenait à deux, en fait.
Toujours. D'accord. On a besoin de l'autre pour avancer. On ne peut pas progresser seul. Il y a des phases où on s'entraîne seul face par exemple à une glace, parce que nous on a la chance d'avoir une glace, un mur de glace dans notre salle. On pratique la répétition de mouvements. Au début on apprend à tenir l'arme, se déplacer, se tenir droit. Après on viendra en duel quand on aura un minimum de technique. Voilà. Et après le port de l'armure, c'est au bout d'un certain temps quand même, on se casque pas dès les premiers cours.
D'accord.
Parce qu'après il faut supporter l'armure.
Oui, parce qu'il doit avoir un certain poids.
Non, pas forcément, mais...
C'est de mobilité.
Alors, ça réduit la mobilité du corps et tout ça. Bon, ça, c'est un fait. Hein. De toute façon, il n'y a pas de chute en kendo. On ne fait pas de roulade. On est toujours
debout. Debout ouais.
On reste debout. D'accord. Après, il y a des... Pour valider une frappe, il y a des composantes importantes à respecter. Il faut, en fait... c'est l'union, en fait, de toutes ces composantes qui va faire qu'on... On va valider un point sur une frappe. Alors donc, on fait appel à l'énergie, enfin
la force, la puissance, non ? Non ?
Non, c'est un état d'esprit, en fait. Voilà, pour marquer un point, il faut avoir l'esprit de vouloir le marquer. On le marque avec l'arme, mais aussi avec le corps. Donc, en japonais, on fait appel à... au ki kentaichi. Le ki kentaichi, c'est l'union de l'énergie, du sabre et du corps en même temps, pour pouvoir marquer un point. Voilà. Bon, ça paraît un peu obscur au début quand on est complètement néophyte, mais avec le temps, on s'y prête facilement.
Alors, oui, néophyte, mais moi, en même temps, je parlais hier avec votre jeune, là, qui est devenu enseignant, qui vous
voilà,
assiste.
Donc j'ai formé un de mes élèves.
Eh bien, ça remarque, Stéphane, ça a été de me dire, moi, depuis que j'ai démarré le kendo, ben, en fait, j'ai changé, j'ai évolué, et je suis différent.
Oui.
Est-ce que ça amène aussi cette concentration, cette mesure du coup porté, de la, je sais pas, une forme de tactique, de réflexion, de compréhension de l'autre.
Dans les premiers temps, on passe beaucoup de temps à essayer d'intellectualiser les mouvements réalisés. Après, il faut passer outre et il faut que ça devienne une sorte d'automatisme. On doit s'adapter rapidement à une situation et après, il faut agir avec détermination. Il faut réfléchir, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, mais il faut réfléchir le moins possible pour pouvoir être efficace après. Donc tout ça passe par une phase d'apprentissage qui peut être plus ou moins longue. Il y a des gens qui s'y mettent très rapidement, il y a des gens qui mettent plusieurs années avant de comprendre le principe, mais tout le monde peut faire du kendo, il y a pas de souci.
Merci Stéphane pour cet éclairage. Annie, le point commun, là j'entendais un mur de miroir, c'est important aussi dans une école de danse, peut-être on parlait de s'accepter, d'oser franchir la porte, déjà c'était quelque chose, mais on est parfois renvoyé à sa propre image. Il y a des murs, il y a des miroirs, des glaces,
oui,
j'imagine aussi
dans
cette attitude.
En fait, le miroir, il a plusieurs atouts. Déjà, ça permet aussi d'avoir la bonne posture. Parce que c'est vrai qu'en danse, comme dans beaucoup de sports, il faut savoir bien se placer pour ne pas s'abîmer non plus. Donc c'est important, ça permet aussi de connaître son corps, ça permet de jeter un œil aussi à la copine et d'être bien avec son groupe. Et par rapport à l'acceptation de soi, en plus en danse, parfois on joue des rôles, même pas assez souvent, c'est vrai que pour le coup on danse sur des musiques, on a l'impression qu'on se prend pour Britney, on se prend pour Silo, enfin voilà, et le fait de se regarder dans la glace, et c'est ce que nous dit Vanessa, vas-y, laisse-toi aller, l'attitude, c'est pour ça que c'est dance attitude, c'est parce qu'en fait on se regarde dans le miroir et on se donne une attitude pour se dire allez, on rentre dans le corps de quelqu'un d'autre et on se sent bien parce qu'on voit qu'on progresse. On voit qu'on, ben finalement, quand on voit notre prof de danse, on la regarde danser, on dit c'est magnifique, je veux faire pareil. Bon, après, quand on se regarde, nous, ok, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas grave parce qu'au premier cours, on n'y arrive pas. Le prof nous corrige, le prof nous aide. Au deuxième cours, c'est déjà mieux. Ensuite, on s'aide du miroir, de sa copine, de son copain, voilà. Et pour le coup, on y arrive. Et là, on est content de voir le reflet du miroir et de se dire. Ok, on ne peut pas se dire danseur en tant que tel, parce que c'est quand même un métier, mais j'y arrive. J'ai réussi à faire ce pas, à faire cette choré, à tenir en équilibre, parce que c'est aussi ça la danse. La danse, c'est la respiration, c'est l'équilibre, c'est
Le rythme aussi, j'allais dire.
Tout à fait. La coordination.
Bah oui.
En fait, voilà, c'est tout ça en fait qui permet de faire en sorte qu'on réussisse à faire le mouvement, à faire la choré. On est en harmonie avec toi et avec la musique. C'est-à-dire la musique dans toutes les cultures.
On n'est jamais seul, ouais.
Voilà. Donc c'est le reflet de soi est hyper important pour nous, pour les autres et pour progresser.
Vous en avez forcément vu arriver. Ça vous dit que ça fait 8 ans que vous êtes au sein de ce club. C'est que bah, vous avez dû en voir arriver très peu sûres d'elles, certaines
oui.
femmes. Il y a des jeunes hommes, des hommes aussi.
Bien sûr.
On a oublié de le préciser, c'est quand même
oui.
mixte, hein, sur des
Alors, c'est mixte à tout âge, puisqu'en fait, dans les enfants, il y a des garçons, dans les adultes, il y a des hommes qui s'éclatent autant que nous.
Bien
et
sûr.
Du coup, pour les porter, c'est beaucoup plus pratique. Et ça permet aussi de faire progresser tout le monde. Donc oui, bien sûr, vous avez tous les âges et il y a une mixité.
Donc vous avez forcément vu ou été témoin de jeunes femmes ou de femmes d'âge plus mûr, peu importe le profil, qui sont arrivées vraiment très intimidées, avec des difficultés sur leur acceptation, et que vous avez vu peut-être s'épanouir, changer
fait.
Même de tenue de vestimentaire entre arriver une année et sur deux
oui.
ou trois ans, être plus dans l'acceptation de son oui. corps, avoir des vêtements peut-être plus proches du corps, parce qu'on sait que parfois, malheureusement, lorsqu'on a des complexes, on essaie de camoufler ça. Chacun voit la chose comme il l'entend, mais c'est qu'on est quand même mieux dans ses baskets lorsqu'on s'accepte soi-même. Avant d'être accepté par les autres, il faut déjà s'accepter soi-même. Donc, vous avez dû avoir multiples exemples, non ?
Énormément. Et alors, en fait, on a énormément d'exemples différents. Donc, effectivement, après, ce n'est pas pour rien qu'on dit manger, bouger. Parce que pour pouvoir s'accepter, ça passe par l'image. Et au fur et à mesure que l'on se voit, que l'on voit que l'on progresse, c'est le cercle vertueux aussi du sport, de n'importe quel sport, mais aussi de la danse. C'est que du coup, on se dit, voilà, j'y arrive, maintenant je veux aussi faire un autre effort. On fait attention à son alimentation. On apprend aux enfants, dès le plus jeune âge, à boire. C'est hyper important.
On oublie de le dire.
Voilà, donc c'est ce qu'on dit même aujourd'hui au sein du forum. L'enfant, même pour faire un essai, doit venir avec une bouteille d'eau. Parce que c'est important, il faut manger sainement, mais aussi boire. Et donc, on voit les évolutions, les transformations physiques, mais aussi l'assurance, avoir confiance en soi. Le fait de danser, le fait de se voir évoluer, le fait de voir qu'on y arrive. On a des élèves qui deviennent profs. Donc, effectivement, comme monsieur l'a dit, mais quelle fierté de voir qu'un élève devient prof et quelqu'un qui, au démarrage, n'était pas forcément sûr d'elle ou sûr de lui. Le fait de devenir prof, la fierté, l'assurance, ce besoin, ce plaisir de transmettre. Donc oui, évidemment, on a vu énormément d'évolutions et ça fait plaisir, c'est rassurant, quoi. On sert à quelque chose.
Je n'en doute pas un instant. Avant d'écouter le petit micro-trottoir réalisé par Jean-Jean, je voudrais quand même reprendre la parole vite fait avec Mathias. Mathias, ça, c'est une paroi. Moi, là, par exemple, j'ai émis auprès de vos deux camarades autour de la table de manière un peu naïve, des réflexions que je me faisais. Au-delà d'avoir le vertige ou pas, parce que ça a dû arriver quand même des jeunes qui viennent pour essayer de vaincre cette peur du vertige.
Des jeunes et des
moins jeunes, voilà. Je me dis quand même, il faut être en adéquation avec soi-même pour attaquer un mur et des prises où le corps humain sur l'aspect santé, dans la prise des doigts, dans son corps, dans son ensemble, mais aussi la puissance qui émane même des doigts, où je pense que là, il y a des points communs avec le kendo, c'est que ça part vraiment de la pointe de son corps, de son extrémité.
Alors, déjà, l'acceptation de soi, en effet, c'est non négligeable. Venir face à un mur, en effet, déjà, c'est déjà non important. Ensuite, comme disait donc Annie, c'est que le regard des autres, on l'oublie totalement. Parce que même si c'est quelque chose qui est en soi, lorsqu'on commence à grimper, dès qu'on est dans les premières difficultés, on oublie le monde qui est autour de nous, l'environnement, etc. Et bien sûr, ensuite, donc physiquement, ça va demander en fait de la technique. C'est sûr que la première pensée, c'est de dire, en effet, il faut avoir une main qui tient, avoir de la poigne. Mais on oublie généralement, et les hommes beaucoup, les jambes. Et donc, il faut d'abord pas oublier que notre muscle principal, ce sont nos cuisses.
D'accord.
Et donc,
partie la plus importante, presque, pour
l'escalade. En fait, c'est pas la partie la plus importante. C'est que c'est notre muscle le plus important.
D'accord.
Donc, si on veut durer, eh ben, il faut ménager ses bras et penser à ses cuisses. Voilà. Et ensuite, quand on disait qu'il fallait boire énormément, c'est non négligeable, mais aussi il faut respirer. Donc, je pense que ça rejoint quand même notre collègue. La respiration, lorsqu'on est dans l'effort, il faut respirer. Et donc, on est souvent en train de dire souffler. Vraiment, voilà.
souffle.
Voilà. Donc, c'est important. Et donc, oui, par rapport au retour sur soi-même, c'est sûr que on oublie cet environnement, on oublie le regard des autres, et ensuite je reviens sur la progression. Beaucoup sont des novices et il n'y a pas de personne qui est née en sachant grimper.
Bien sûr.
Même si en fait la danse est quand même un peu naturelle, mais
ça escalade quand même un pitchoun tout petit, ça veut dire
toujours escalader, mais entre maîtriser le geste et passer des niveaux aussi peu importe la difficulté. En fait, c'est pas la comparaison par rapport à autrui, c'est la comparaison par rapport à soi-même, c'est-à-dire oh, la semaine dernière je passais pas ce mouvement-là et aujourd'hui je le passe, voilà. Et donc c'est une coordination avec les collègues, soit de cordée ou des lignes à proximité. Et puis on se regarde, ah ben toi comment t'as fait, est-ce que tu pourrais faire comme ça, ben moi je le sens mieux comme ça, parce qu'il n'y a pas une technique, il y en a plusieurs. Alors mis à part quand on monte à un certain niveau, il n'y a qu'une seule façon de passer, mais sinon quand c'est un peu moins difficile, il y a plusieurs façons de passer, et donc chacun s'adapte en fonction de son profil et de ses points forts.
Voilà. La petite particularité, Mathias, par rapport à Annie et Stéphane, on rappelle sur la danse et le kendo, c'est que je suis tonton, je suis papa, je suis cousin, je suis citoyen, j'entends autour de moi, il y a des jeunes en milieu scolaire qui pratiquent ou qui ont une initiation à l'escalade.
Oui.
Chose qu'il n'y a pas sur ces deux autres pratiques. Est-ce que vous, qui pratiquez depuis quelques années, vous avez vu justement des jeunes qui, après un essai à l'école, au collège, en primaire ou autre, sont venus vers vous? Parce qu'il y a aussi une démarche qui a été une sensibilisation qui a été réalisée.
Alors, en plus, c'est en effet le cas. C'est-à-dire que tous les ans, on a des individus qui ont dit « Tiens, j'ai fait une initiation à l'escalade. » On a un petit problème, c'est qu'on est victime de notre succès. On n'a que 20 places pour les enfants, 20 places pour les ados, et les enfants sont complets tous les ans, et les ados aussi. Voilà. Mais les adultes, c'est pareil. Il y a aussi plusieurs personnes qui font pendant les vacances, entre amis, une initiation à l'escalade et qui reviennent. Moi, le premier, par exemple.
C'est un cycle où ça a démarré.
C'est pire que ça. J'ai eu pour mes 30 ans les copains qui ont la bonne idée, alors que je n'avais jamais parlé de m'offrir l'ascension du Mont Blanc. Et donc,
30 ans. Voilà. Allez, bien, on monte le Mont Blanc. D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé l'alpiniste et je me suis équipé. Et je me suis dit, je vais m'inscrire au CAP. Voilà. Et après, c'est devenu comme cela. Et puis, je me suis dit, c'est pas mal. Il y a un esprit. On a plein. C'est vraiment très bienveillant. Et donc, c'est ainsi que j'ai intégré le bureau et pouvoir encadrer. Voilà.
Merci. Stéphane, justement, Mathias parlait de la respiration. C'est super. On a parlé de l'hydratation. On a parlé de réflexion, mais la respiration, un gros combien essentiel, sûrement dans le kendo.
Bien sûr, la respiration est très importante, de même que s'hydrater également, puisque comme on pratique beaucoup, c'est assez exigeant, on a besoin de boire aussi. Bon, on ne boit pas quand on est casqué, bien sûr, on boit pendant les phases où on est obligé d'enlever le casque, bien sûr. Oui, effectivement, la respiration est très importante, c'est une composante même de la pratique du kendo. L'inspiration, l'expiration. Quand on frappe, il faut inspirer avant de pouvoir réaliser la frappe.
Et la réalisation en fait de cette frappe s'effectue avec un cri, ce qu'on appelle le kiai.
C'est systématiquement, d'accord.
C'est obligatoire. En fait, et ça permet justement à des personnes qui sont un petit peu introverties de pouvoir s'exprimer pleinement par le cri. Et donc, effectivement, les premiers temps, les gens n'osent pas crier parce qu'ils ont surtout peur du ridicule au début. Et il n'y a pas de ridicule en kendo, en criant, puisque ça fait partie de l'activité.
Alors, Stéphane, de manière un peu naïve, je me dis, avec malgré, on rappelle, hein, vous êtes le professeur de kendo du club, le sensei, est-ce qu'il y a un petit manuel comme ça? Parce que je veux dire, lorsque vous avez des novices ou des nouveaux arrivants dans votre association, il y a des termes techniques, il y a les termes ancestraux de la culture du kendo. Je veux dire, à un moment donné, bon, il y a des tutos sur Internet, on peut trouver des infos.
Tout à fait.
Mais son sensei, est-ce qu'il fournit une petite plaquette, alors, des petits éléments?
Je vais vous expliquer. Dans les premiers temps, je donne rien du tout. On pratique, on répète le mouvement. Et après, au fur et à mesure, quand on veut améliorer sa compréhension, bien sûr, je fais des photocopies, je fournis des informations sur des points techniques, les termes employés. Mais au départ, c'est un peu comme au Japon. On apprend en faisant. On comprend comme on peut au début. Et après, au fur et à mesure de la pratique, quand on veut affiner, bien sûr, on apporte les informations.
Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que moi, les pratiquants du kendo, encore une fois, pardon, de manière naïve, amis auditeurs, auditrices, et excusez-moi, sensei, c'est qu'il y a à la fois, c'est un art martial, donc on y met de la force physique, mais étonnamment, j'aurais cette idée vraiment que ça amène une zénitude,
bien sûr.
Un calme, une réflexion, une mesure du coup porté, et c'est tout ce parallèle incroyable d'une discipline sportive physique et qui amène derrière une forme de gestion de soi-même poussée. Je me trompe?
Non, c'est un peu c'est pas ça.
Voilà, je crois que j'ai essayé le kendo. Jean-Jean, on va s'offrir une petite pause musicale ou le micro-trottoir? On est comment, monsieur Jean-Jean? Ou les deux? Je propose une petite pause musicale derrière le micro-trottoir qui va bien. Je suis toujours en compagnie d'Annie, merci beaucoup du studio Dance Attitude. Je vous remercie Mathias, Club Alpin.
Club Alpin Français.
Et Sensei Stéphane du Club de Kendo d'Evreux. Musique et derrière micro-trottoir et on réchange ensemble, messieurs, dames.
I'm going to take you away from home. Qu'est-ce que vous attendez d'une pratique sportive sur le plan physique, sur le plan psychologique, intellectuel, émotionnel?
Je dirais déjà de pouvoir prendre des trucs, prendre du plaisir, hein, s'amuser. Après, de développer des connexions sociales, vivre dans un groupe. Le sport, ça apporte pas que des compétences physiques, ça apporte aussi des compétences sociales, appartenir à un groupe, appartenir à un réseau, Et après, effectivement, le développement physique, développement physique, proprement dit, sur le sport.
Le fait de rencontrer, de se sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir aussi se défouler, de partager du bon moment en rencontrant une performance sportive après, un certain niveau en sport, pouvoir faire des compétitions après.
Une émulation sportive avec les autres athlètes qui sont avec nous.
Oui, de rencontrer des personnes, faire du lien social, ça c'est important, le sport amène tout ça. En dehors de la compétition, il y a aussi du lien au sein du club. Pour eux, pour soi-même, c'est clair que faire du sport, ça amène effectivement, déjà on se sent mieux, il n'y a pas, si vous courez plus, à un moment ça vous manque, donc c'est important.
Une grande famille.
Là, on vient pour les petits, donc
ouais.
Ça va permettre de trouver un cadre.
Oui.
De s'insérer dans une première phase sportive et elle se dépenser après l'école. Et puis de trouver sa voie éventuellement dans le sport. Et puis l'assurance dans la vie peut-être aussi également. Voilà.
Dans le cas du kendo par exemple, au niveau de tout ce qui est physique, ça permet de travailler sur le dépassement de soi. Parce que comme toutes les personnes qui sont gradées, avant d'être gradées, on est débutant, donc on n'est pas bon. Et au fur et à mesure, on apprend, on devient plus fort physiquement, plus fort mentalement, parce que le kendo, c'est quand même beaucoup de mental. Moi, je dis toujours, le kendo, c'est de la méditation active. Je fais de la méditation normale à côté, et je fais de la méditation kendo aussi, parce que quand on est en exercice, en combat ou autre, on ne pense à rien d'autre. Donc, on est dans notre combat, donc c'est de la méditation. Et c'est la pratique également pour le développement de soi-même, parce que le kendo, je parle du kendo, hein, parce qu'on est kendoka après
ça, avant
tout. Il y a un développement personnel parce que le kendo respecte beaucoup l'étiquette japonaise, chose qui a été perdue au fur et à mesure avec d'autres arts martiaux beaucoup plus répandus en Europe. Le kendo est très axé étiquette, très axé
discipline de soi.
Voilà, discipline de soi. Donc ça permet vraiment de progresser également dans sa tête. Un bon kendoka va avoir une attitude différente d'un kendoka débutant, mais pas que dans le kendo, pas que dans le dojo, également dans la vie de tous les jours.
Eh bien, c'est plutôt pertinent. Merci Jean-Jean d'avoir tourné ce petit sujet. C'est rigolo parce qu'on a quand même l'enseignant, le maître, le sensei du club de kendo d'Evreux qui est autour de la table. Et puis on entendait justement une mise en lumière de cette discipline. Je peux vous raconter une anecdote aussi à mes auditeurs auditrices. Je pourrais presque partir du plateau radio. Ça y est, ils discutent entre eux. Ça y est, ça échange. Ils voient les points communs entre chacun de leur discipline ou de leur pratique sportive. Et ça fait plaisir. Je ne m'étais pas trompé à inviter, je vous le rappelle, Annie du studio Dance Attitude, Mathias du club alpin français, CAF, on dit
CAF, oui, exactement.
CAF, voilà. Et Stéphane du club de kendo à Évreux.
Oui, vous releviez là, ensemble des points communs les uns les autres. Mais il y a quand même beaucoup l'esprit mental qui vous lie, vous trois, dans vos respectives pratiques et disciplines. Mathias, on imagine bien cet apprentissage en salle, en gymnase, sur des murs d'escalade, avec des voies différentes. On a vu quand même aux Jeux Olympiques plutôt une réussite hein, des acteurs français dans cette discipline. Des frères d'ailleurs, c'est
oui,
un atypique
ouais.
Ça.
Très atypique.
Ouais.
Tout à fait. C'est un niveau quand même qui est incomparable. Hein.
Ah oui, mais bon, quand même, on va en parler. Voilà. En attendant, il y a eu un éclairage supplémentaire sur votre pratique. C'était la première fois les Jeux Olympiques.
Tout à fait, c'était la première fois avec quand même donc justement deux champions français quand même qui nous ont mis en lumière. Même s'il y a eu.
Il n'y a pas eu de médaille, pas grave, mais
voilà,
ils ont fait le buzz. Hein.
Voilà, exactement. Mais ça reste des monstres. Voilà.
Alors, vous disiez, il n'y a pas que l'escalade, il y a aussi la randonnée, il y a la marche.
Il y a des randonnées donc, de ski, de randonnée, ou même parfois, en fait, on fait des activités, ça peut être du ski de fond, ça peut être des raquettes. Voilà, après, on reste un club bienveillant et donc de divertissement. Et donc, si on a un groupe de 10, 12 qui part, si le jour J, on avait prévu de faire du ski de rando et qu'il y en a un qui va aller faire des raquettes, ils vont faire des raquettes. Voilà, c'est vraiment pour se libérer, être en totale cohérence avec soi-même. S'ils veulent rester dans la nature, ils restent dans la nature. Voilà, peu importe.
J'ai soulevé beaucoup de points communs avec vos confrères et consoeurs autour de la table, mais il y a une particularité qui vous est propre, c'est la nature.
Exactement.
Parce que, vous le disiez, en fait, ça peut se pratiquer en intérieur, on l'a bien entendu, mais on peut organiser des sorties en extérieur. Et là, la nature, on n'a pas le même contrôle. On ne peut pas avoir la même gestion de l'élément. Un mur en salle, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. On va être sur soi-même face au mur d'escalade. C'est pas pareil en extérieur.
Quand en extérieur, de toute façon, la sécurité est un point qui est abordé dès le départ. Hein. Donc voilà. Donc c'est la sécurité de soi et d'autrui, mais en effet, en milieu donc naturel, on peut avoir des falaises qui peuvent parfois s'effriter. On peut avoir des conditions climatiques qui peuvent tourner d'un instant à un autre. Et donc c'est vrai qu'il faut vraiment rester extrêmement humble et toujours bien mesurer et avoir l'environnement de soi qui soit maîtrisé. Donc que ça soit pour faire des randos VTT ou parfois on fait des activités, on a même fait parfois des stages de parapente ou peu importe, voilà, on reste très ouvert sur la nature.
Stéphane, on entend en fait le club là qui est en démonstration.
C'est ça, tout dire à nos auditeurs. Il y a deux élèves qui sont en train de faire une démonstration. Hein.
C'est important ça aussi de le montrer et de pratiquer parce qu'on parlait de sécurité, c'est l'exemple même quand
c'est
on
ça,
doit faire.
Travailler en sécurité surtout, c'est très important, il faut être bienveillant avec la personne avec qui on pratique. On ne fait pas n'importe quoi, le but n'est pas à la base de blesser la personne avec qui vous passez.
Et il y a des choses qu'on s'est dit en micro là, oui. Qui sont très importantes, je voudrais que vous les releviez s'il vous plaît.
Oui, en fait le kendo ça développe des points importants, la coordination du mouvement. Très important parce que voilà. La volonté, il faut avoir la volonté aussi de se dépasser, le dépassement de soi. Il faut être courageux au départ parce que des fois, se retrouver face à quelqu'un, c'est pas vraiment évident. Il faut prendre le dessus sur l'autre. On prend le dessus d'abord par l'esprit et ensuite avec le corps et l'arme. Et après, il faut réussir à rassembler en fait toutes ces composantes. Pour pouvoir valider un point, et c'est ce qui rend l'activité pas si simple au départ. Une fois qu'on a passé en fait cette étape, on peut se faire plaisir en kendo. Il y a du plaisir aussi à pratiquer.
Alors comment on évolue, comment on monte en ceinture, c'est parce qu'on connaît davantage d'éventail de gestuels ou qu'on connaît mieux la culture ou c'est bel et bien en gagnant des combats?
Alors non, en fait, il y a deux types de classements. Dans les grades en kendo, il y a d'abord tout ce qui concerne les kyu, les premiers grades, un petit peu comme en judo, en karaté. C'est tous les grades que l'on passe avant d'être ceinture noire. Donc, ça passe par des étapes. C'est plus ou moins rapide selon les personnes. Il faut savoir que pour pouvoir prétendre à passer un premier dan en kendo, il faut 3 ans de pratique, minimum. Alors, il y a des gens... qui arrive, moi personnellement, j'ai mis 3 ans et demi pour être ceinture noire. Après, j'ai mis beaucoup de temps pour passer d'autres grades. Mais ça, c'est parce que je me suis concentré essentiellement à l'enseignement.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est pour ça que, actuellement, je suis 3e dan. J'aurais dû passé mon quatrième dan il y a au moins 5 ans. Je ne l'ai toujours pas fait. Bon, entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que ça,
ça, peut ralentir, bien sûr.
Ça m'a ralenti un petit peu dans mes activités. Donc,
les Q, ça, c'est pour arriver jusqu'à...
C'est ça. Donc, c'est des étapes à franchir. On apprend de la technique. Jusqu'au premier Q, on commence vraiment à faire des combats. Avant, on n'en fait pas vraiment. On fait des exercices techniques, on répète les frappes sur une personne. Et après, le combat, c'est plutôt aux alentours de deuxième Q, premier Q, c'est-à-dire ceinture bleue, ceinture marron, qu'on commence à faire du combat. Il faut savoir une chose, c'est qu'en kendo, on n'a pas de ceinture. Directement.
Oui. Ouais.
Donc, en fait, on a la tenue. Souvent, en fait, les ceintures noires, il y a leur nom qui figure en fait sur le ce qu'on appelle le zeken, c'est une pièce de tissu qui est accrochée en fait sur une partie de l'armure. Et donc en règle générale, les gens qui ont leur nom d'affiché sont souvent ceinture noire. Voilà, c'est pas forcément toujours le cas parce que là j'ai une de mes élèves qui est ceinture verte. Elle a investi dans l'armure et elle a son nom aussi.
Ah bah, elle est fière de ça.
Mais c'est parce que c'est en accord avec le professeur au sein du club. Voilà. Après, vous avez des danes, tout comme en karaté ou en judo. C'est des degrés dans la ceinture noire. Et en kendo, la particularité, c'est qu'on va jusqu'au 8e dan. Le niveau le plus élevé, c'est 8e dan. Je vois dans d'autres disciplines, on peut aller jusqu'à 10 dan. Il y a encore quelques années, on pouvait aller jusqu'au 10e dan, mais les Japonais ont décidé d'arrêter cette course au grade, et on considère à l'heure actuelle que le grade le plus élevé est le 8e dan en kendo. Après, il y a des degrés dans l'enseignement. Il y a trois niveaux d'enseignants supérieurs. Il y a les enseignants de base, un peu comme moi. Et après, vous avez trois niveaux d'enseignants.
Et qu'est-ce qui les différencie ?
Ah bah la différence,
c'est les années de pratique.
Oui, oui, faut un minimum qui s'est sanctionné par un examen. Et en général, l'examen, on passe devant des très hauts gradés.
On le fait valider à Tokyo ou on est comment là ?
Non, non, pas.
Je plaisante.
Si par exemple le grade ultime, le grade de Hunchi,
là il faut être là-bas.
Voilà, déjà il faut être 8e dan. Donc il faut savoir qu'en France, il y a un seul 8e dan, c'est un Japonais qui est venu s'installer en France, ouais, qui vit depuis des années, ouais, mais il n'y a aucun Français qui a réussi à obtenir le 8e dan. Bien qu'il y ait des Français qui avaient réussi une première étape, malheureusement, qui n'ont pas été reçus à la deuxième. Donc, le niveau en France est très élevé. Il faut savoir quand même qu'on a beaucoup de 7e dan, beaucoup de ceintures noires aussi. Je suis en train de perdre le
temps. Non, je vous en prie, c'est très intéressant. On a parlé des différences, on a parlé de la validation, que les Japonais ont dit à un moment donné, non, on arrête à 8. Mais en même temps, à l'image de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais je ne voudrais pas trop qu'on développe, je vois encore qu'on discute avec nos camarades, mais à l'image de ce qu'on se disait tout à l'heure, ça ne sera jamais une discipline olympique
tout à leur micro
parce qu'ils veulent conserver cette tradition, cette pratique, cet art. Voilà, à part
en fait,
parce qu'on peut parler d'art, Marc.
C'est ça, ils ne veulent pas que ça devienne.
On peut imaginer que justement, de la même manière, ils n'ont pas envie que tout le monde essaie de se l'approprier et viennent se le européanaiser, je ne sais pas comment on dit.
Non, mais c'est par rapport aussi à la compréhension d'un combat. C'est la façon de pratiquer pour valider des points. C'est clair qu'une personne extérieure ne va pas forcément comprendre le principe. Il faut être pratiquant pour pouvoir comprendre pourquoi un point a été validé. Et quelqu'un en extérieur, ce qu'on aime bien quand on regarde discipline sportive, c'est de comprendre assez facilement les règles. Et là, les règles sont un peu compliquées pour le novice. Donc, c'est pour cette raison que les Japonais ne souhaitent pas que ça devienne une discipline olympique.
Prenons notre temps, donnons-nous les moyens de franchir les portes des associations, des clubs sportifs, pas que, mais là, voilà, le thème du moment, là, amis auditeurs, auditrices, c'est le sport et l'apport que ça peut avoir. Annie, il n'y a pas de compétition ou alors il y a parfois des chorégraphies confrontées d'un club à une autre ou des championnats dans la danse ou moins quand même, on n'a pas cette idée de la chose.
Alors après ça dépend de la danse, il y a tout ce qui est danse acrobatique où là effectivement il y a des concours ou autres. Après il y a des diplômes qui sont aussi existants au niveau de la danse. Après l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'état pour pouvoir danser, pour être enseignant et être un bon enseignant en fait. Je dirais qu'en fait le Le dépassement de soi, la progression, ça représente un concours pour soi et ça permet de gravir des étapes. Après, tout le monde peut danser, mais de là à dire qu'on est danseur, ça s'apprend. Donc il y a des écoles, il y a des niveaux. Et en fait, dans notre studio de danse, comme dans beaucoup, quand vous venez, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous venez pour vous défouler, vous éclater, vous amuser. Et là, auquel cas, alors soit on prend de la Zumba Fitness ou alors on prend un niveau débutant. Ou même peut-être intermédiaire, mais déjà par rapport au niveau intermédiaire, là pour le coup, on a quand même des notions, des connaissances bien particulières. On parlait tout à l'heure de coordination, de respiration, et c'est vrai que pour pouvoir progresser, il faut connaître son corps, mais aussi connaître les mouvements. On parlait de sécurité aussi dans les deux autres disciplines, là c'est la même chose. Faut pas oublier que dans un cours de danse, on passe quand même le trois quarts du temps à chauffer le muscle, à s'échauffer, à s'étirer, pour éviter les blessures. Et en fait, au fur et à mesure que l'on progresse dans les niveaux, après, votre enseignant, votre professeur peut vous faire passer d'un niveau à l'autre, peut vous emmener aussi, pourquoi pas, dans une structure professionnelle. Vanessa Morel, elle est prof de danse chez nous, mais elle a également une structure professionnelle. Elle a dansé avec Patrick Bruel, elle a fait tout un tas de choses.
D'accord.
Et effectivement, on n'acquiert pas ce niveau-là comme ça. Il faut prendre des cours, il faut danser régulièrement, il faut avoir un certain niveau. Et bon, voilà. Même s'il n'y a pas de discipline olympique, il y a quand même des validations et on apprend tout le temps.
Il y a une couleur musicale, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est prépondérante des genres de pratiques, parce que les familles du milieu de la danse sont très nombreuses et variées.
Énormément, oui.
Voilà, moi, gamin, j'entendais les copines qui faisaient du jazz.
Oui.
Il y avait effectivement le fitness. Aujourd'hui, ce qui est devenu un petit peu plus dans l'air du temps, c'est toutes ces pratiques un peu zumba qui sont hybrides, très rythmées,
oui.
Mais en fait, qui sont une forme de rythmique d'accompagnement pour donner une espèce de répétition et surtout de vitesse à la chose. Vous parliez de pole dance aussi. Je suis un peu surpris. Ce sont bien les danses avec des bars, où en fait, là, on n'a plus trop les pieds sur terre.
Tout à fait. Alors, effectivement, il y a des passages au sol, mais très, très peu. Et là encore, en fait, vous avez plusieurs niveaux. Et c'est vrai que c'est important, en fait, d'expliquer que la pole dance, c'est danser avant tout. Beaucoup de personnes ont l'image de la pole dance sexy, voilà, mais c'est pas ça.
Ah non, non, et puis là, c'est très sport pour
vous. Exactement. Vous avez besoin, effectivement, d'avoir une préparation musculaire intense. Vous faites corps avec la barre et sincèrement, moi, pour l'avoir essayé, tenir sur la barre, j'y arrive pas.
Ouais,
c'est vraiment il faut avoir une technique bien particulière. Et là encore, en fait, vous ne pouvez pas avoir non plus 50 barres dans une salle. Donc, il faut vraiment être en petit groupe. Là encore, au niveau sécurité, parce qu'il faut faire attention comment vous vous positionnez, il ne faut pas vous brûler avec la barre. Donc, c'est vraiment une discipline en tant que telle. Et c'est magnifique à voir, mais c'est très, très, très dur. J'avoue qu'il faut... voilà, il y a tellement de danses différentes. Et même si la Zumba n'est pas une danse, par exemple, tout à l'heure, entre nous, on parlait des disciplines, on parlait de se défouler. Mais c'est génial. L'afro-dance, le djembe, la Zumba, c'est des pratiques complètement différentes. Et aujourd'hui, donc nous, au niveau du studio Dance Attitude, on a fait des Zumba parties grâce à la mairie qui nous a prêté la place.
Ah oui,
la
place de ville. Exactement. C'était vous.
C'était nous. Et du coup... ce bonheur de voir des non-adhérents, des passants d'Évreux qui se sont joints à nous, parce que c'était le but, faire découvrir cette discipline, danser, bouger, transpirer, s'amuser tous ensemble, quel bonheur. Et là, du coup, la danse prend encore un autre aspect, c'est la convivialité, c'est on est tous ensemble et on s'amuse, on s'éclate. Donc, ok, la Zumba, c'est du fitness. Mais voilà, on danse aussi malgré tout, tous ensemble.
Ouais,
c'est
génial avec votre pratique et la danse, Annie, c'est qu'à la maison, une chaîne IFI, un poste, la boîte carrée, je l'appelle comme ça à la télévision, on met la musique à fond et en fait, on peut y aller, on peut se lâcher. Et c'est déjà aussi un moyen de s'entraîner de manière autonome et de s'amuser avant tout, au-delà de se dépasser. Je vous l'ai dit, complètement converti à ce que vous bien fait de la danse. Mathias, club alpin français, section à Évreux, hein, oui. On rappelle. J'imagine sur les réseaux sociaux, on trouverait très facilement vos coordonnées.
Sur Facebook, il y a le site également, exactement.
Est-ce que, au-delà de ce voyage initiateur, vous disiez tout à l'heure à vos 30 ans, vos copains qui vous offrent l'accession du Mont Blanc, Au-delà de cette pratique de l'escalade et de la marche et de la pour la nature, est-ce que ça a déclenché chez vous d'autres choses? C'est-à-dire, est-ce que votre curiosité a été aiguisée et ça vous a donné envie de goûter, tester ou aller au-delà dans certains aspects tout simplement de vous-même et de ce qui vous entoure, ou même tout simplement de la curiosité?
Alors exactement, en fait, comme ce n'était pas du tout une activité que j'avais initialement et que je souhaitais faire, en fait, ça m'a ouvert, comme je disais, par exemple, un stage de parapente. Jamais je me suis dit, tiens, je vais faire du parapente. C'était l'occasion donc de faire des activités, etc. Donc, je reste extrêmement curieux. Et puis aussi, ça ouvre aussi quand même un petit peu l'aspect pédagogique. Et donc, de partager, d'enseigner et de faire grandir les gens. Parce que, en fait, quand on voit... moi, j'ai progressé assez rapidement. Je ne dis pas que j'ai un niveau extraordinaire, mais en fait, on apprend assez vite. Les gens qui sont novices et qui ont passé le pas de venir tester, parfois, après, en disant « Non, mais je suis nul, j'y arriverai pas. » Ou tout simplement aussi ceux qui veulent vaincre la peur du vide. Hein. Et donc, quand on les accompagne dans cette démarche-là de s'acceptation et de passer
dépassement
de soi et de faire des défis en fait, au quotidien, hein, parce que quand on vient, on s'impose de venir une, deux, trois fois par semaine, parce qu'on veut progresser, il n'y a pas de secret, je pense que n'importe quelle activité,
il faut pratiquer.
Bien sûr. Qui dit, tiens, je vais venir, voilà. Après, moi, je fais d'autres sports à côté aussi, et donc, en effet, ça permet d'être vraiment bien. Moi, je suis avant tout, en fait, un coureur.
C'est la course à pied, votre domaine de prédilection.
Oui, initialement, des grandes distances, mais donc ça me permet aussi de compenser. Et puis tout est complémentaire. Hein. Voilà. Après, j'ai fait plein d'autres sports et c'est vrai que il n'y a pas de limite. Quoi. Voilà.
Bah, ça donne envie tous les trois, messieurs dames, là, d'aller goûter à vos pratiques respectives. Stéphane, je vous entendais réagir justement sur les propos de Mathias. C'est clair, vous validez le dépassement de soi?
Oui, bien sûr.
Oui, ça vous a apporté, vous, clairement, à vous. Parce que quand je parlais à votre... Là, pour le coup, c'est pas vous qui m'avez dit « Place un petit peu, Damien, s'il te plaît. » On se connaît pas, hein, mes auditeurs. Ouais. Je les connais pas, les trois, là. C'est pas Stéphane qui m'a dit « Damien, peux-tu parler de mon jeune, là, qui t'a parlé hier et tout ?» Parce que lui, il était dithyrambique. Il disait bien qu'en termes d'être humain, pour lui, tout court, bah, en fait, la pratique du kendo lui a apporté énormément.
Ouais.
Et sûrement une confiance en soi, aussi, sur toi qui nous fuit.
Oui, la confiance en soi, le respect des autres, aussi. Parce que bon, bah, c'est important. Si on ne respecte pas les autres, bah, on a du mal à avancer aussi, même dans sa pratique. C'est à la base même des arts martiaux, hein, le respect de l'autre. Ça, c'est indiscutable.
Bon, il faudrait qu'en fait, très jeune, on ait un petit package là, hein, qu'on goûte à différentes activités sportives, parce que
c'est ça.
Je suis complètement converti. Hein, oui. Je crois au bien fondé du sport.
Il n'y a pas besoin d'être très jeune, en fait. Hein.
Mais, oui, de jeune, déclencher, tu as raison.
Tout à l'heure, il disait qu'il avait donc son collègue qu'il avait formé, donc il n'était pas tout jeune quand vous l'avez eu au sein de votre club.
Ouais.
Nous, on a aussi dans l'historique du club, en fait, un individu qui s'est découvert l'escalade. Il a été passionné, il a dit « je veux faire ça ». Il a eu une progression extrême, à tel point qu'il a complètement changé de vie. Et il est parti en Haute-Savoie, il est venu quitter Haute-Montagne, quoi. Voilà.
Ah ouais, c'est bon.
C'est une découverte de soi, tout simplement, en fait. Voilà. Et d'arriver avec une vie en adéquation avec soi-même.
Et ce que je voulais souligner aussi, c'est, on parlait tout à l'heure que c'est ouvert à tous, et tout comme pour l'escalade, au niveau de la danse, il y a une maman hier qui nous demandait si son enfant handicapé pouvait venir. Et donc oui, effectivement, même lorsqu'on a un handicap, hein, physique ou même mental, peu importe, la danse, là encore, permet de s'accepter, d'aller au-delà de ces compétences qu'on pourrait avoir tous les jours. On ne nous regarde pas. C'est-à-dire qu'en fait, le handicap, on l'oublie. Et du coup, c'est vrai que ça permet, là encore, d'intégrer tout le monde au sein d'une famille, au sein d'une activité, et faire en sorte que, ben, en fait, c'est vraiment ouvert à tous. Tout le monde a sa chance. Grand, blond, brun, petit, gros ou pas, quoi.
Et puis ça permet de dire en fait qu'on est tous pareils, et donc il n'y a pas le regard d'autrui, et c'est aussi une grosse leçon pour les autres enfants, en l'occurrence parce que c'est des enfants, et en fait ils sont comme nous, les handicapés, et donc ça permet d'avoir justement de ne pas voir la différence, de ne plus voir la différence.
Avoir la chance de faire comme
voilà.
Tout le monde.
Et il y a des gens qui ne se rendent pas compte en fait de la lourdeur d'un handicap. Et donc, de l'accompagner des handicapés juste de temps à autre de façon hebdomadaire ou quoi que ce soit, ils disent, ça me permet aussi d'être bienveillant. Quoi. Donc, une satisfaction personnelle et pour l'handicapé et pour l'esprit du club. Quoi, voilà.
et ça permet aussi d'ouvrir les autres à la différence.
Bien sûr.
C'est-à-dire que lorsque l'on danse avec quelqu'un qui est différent et que l'on voit ses progrès, que l'on voit ce qu'il peut faire, bah, franchement, on est en harmonie, quoi. Ok, il y a une différence, ok, la personne, mais elle fait la même chose que toi, en fait, elle danse et c'est tout, quoi.
On est d'accord, et puis pour conclure, c'est vrai que, quelle que soit la progression, qu'elle soit différente, n'importe quel niveau, il y a progression, voilà. Et donc, il faut savoir la reconnaître.
Je suis assez d'accord, en kendo, on progresse toute sa vie, c'est une discipline de vie, en fait. On commence le kendo, il y a des gens, ils finissent jusqu'à un âge très avancé, puisque j'ai assisté à une démonstration de kendo avec un haut professeur qui avait 100 ans.
Un centenaire.
Il était centenaire. On l'a vu à Paris. C'est assez impressionnant. Il n'avait pas l'énergie forcément qu'on a quand on a 20 ans, mais il avait une maîtrise technique telle qu'on était énorme.
Ça a posé le respect.
Très respect.
Franchement, on va être obligé de couper court à notre échange, je vous l'avais dit. Il y avait grande chance qu'on amène à une heure d'échange. J'étais en compagnie d'amis du studio Dance Attitude. J'étais en compagnie de Mathias du club alpin français. J'étais en compagnie de Stéphane du club de Kendo Evo. Et vous l'avez entendu, pratiquer du sport, c'est s'accepter, c'est progresser, c'est de la confiance. C'est un apport mental et physique indescriptible. Eh bien, franchissez les portes, amis auditeurs auditrices. Vous le savez, je n'essaie pas de vous convertir davantage, mais on a encore trois beaux exemples autour du plateau radio. Merci beaucoup, Annie, Mathias et
Esther. Merci à vous. Merci de vous avoir reçu.
Extrêmement intéressant. Voilà, merci. Allez, merci. On part tout de suite avec Maxime, le bureau d'information jeunesse à Ville-d'Évreux, et on revient à 12h pour parler handicap avec la MIGC.